marcher sur les eaux, Jésus est puissant.
Il a marché.
Il a marché sur les eaux, Jésus est puissant.
Et dis-moi où tu as vu ça. Alors marche sur les eaux.
Il a marché sur les eaux, Jésus est puissant.
Et dis-moi où tu as vu ça.
Marcher sur les eaux, Jésus est puissant.
Dis-moi où tu as vu ça. Alors marcher sur les eaux.
Il a marché sur les eaux, Jésus est puissant.
Dis-moi où tu as vu ça. Alors calmer la tempête.
Il a calmé la tempête, Jésus est puissant.
Jésus, tu m'as donné la vie.
Tu m'as tout donné.
Oh, Jésus, tu m'as donné la paix, papa.
Tu m'as tout donné.
Oh,
Alléluia. Nous allons proclamer encore l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui libère, l'évangile qui guérit, l'évangile qui délivre, l'évangile qui accomplit toutes choses. L'évangile est annoncé. Gloire à toi, Jésus.
La semence est plantée
et
bientôt apparaîtra une moisson dorée.
L'évangile
est annoncé. La semence est plantée
et
bientôt apparaîtra une moisson dorée. Oh, Jésus règnera. Jésus règnera. Oh, Jésus règnera. Oui, Jésus règnera. Oh, Jésus règnera, Jésus règnera. Oh, Jésus règnera, oui, Jésus règnera.
Prends
espoir aux opprimés, c'est le désir du Père. Partageons son grand amour, soyons scellés lumières.
Prends
espoir aux opprimés, c'est le désir du Père. Partageons son grand amour, soyons scellés.
Il règnera.
Oh, Jésus règnera. Jésus règnera. Oh, Jésus règnera. Oui, Jésus règnera. Oh, Jésus règnera. Jésus règnera. Oh, Jésus règnera. Oui, Jésus règnera.
Sa puissance
est libérée à travers nos prières. Les démons sont repoussés, soudain la nuit s'éclaire.
Sa
puissance est libérée à travers nos prières. Les démons sont repoussés, soudain la nuit s'éclaire. Oh, Jésus règnera, Jésus règnera. Oh, Jésus règnera, oui, Jésus règnera. Oh, Jésus règnera, Jésus règnera. Oh, Jésus règnera, oui, Jésus règnera. Oh, Jésus règnera, Jésus règnera. Oh, Jésus règnera, oui, Jésus règnera.
Dans nos familles,
oh, Jésus règnera. Jésus règnera. Oh, Jésus règnera, oui, Jésus règnera. Oh, Jésus
règnera.
Jésus règnera. Oh, Jésus règnera, oui, Jésus règnera. Oh, Jésus règnera, Jésus règnera. Oh, Jésus règnera, oui, Jésus règnera.
Oh, Seigneur, merci, c'est vrai, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu vas régner, Père éternel. Nous croyons que tu vas régner, Jésus, et le monde entier verra que tu es Dieu, Seigneur. Et tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Toute langue confessera que tu es Seigneur. Père, tu dis, Seigneur de gloire, que les révélations de ta parole éclairent et donnent de l'intelligence aux simples, Seigneur. Nous sommes venus comme des simples devant toi, afin, Seigneur, d'entendre, de saisir et, Seigneur de gloire, de manifester ce que tu as à nous dire encore ce soir. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui va nous éclairer encore aujourd'hui. Pour ta parole qui va libérer, qui va délivrer, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur de gloire, parce que tu nous as fait connaître ton Fils unique, Seigneur. Père, je prie que tu protèges encore ta parole ce soir, Seigneur, et que tu protèges ton serviteur, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, car tu confirmes toujours les paroles, Seigneur, de tes serviteurs. Merci pour ton amour et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Merci Seigneur de nous assister par ton esprit. Glorifie ton nom, Père éternel. C'est toi notre sagesse. Alléluia.
Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse. Conduit par sûre main, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin,
et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Il est ma justice.
Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi, je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi.
Il est ma sagesse.
Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour
toujours,
jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
Oui Seigneur, merci de faire entendre ta voix dans nos cœurs Seigneur. Nous ne sommes pas là Seigneur pour remplir nos cerveaux de versets bibliques, mais nous sommes là pour écouter ta voix. Seule ta voix peut faire lever un paralytique. Seule ta voix peut réveiller les morts, physiques ou spirituels, pour les amener à être utiles à ton service. Et Seigneur, nous venons à toi comme des gens fatigués, des infirmes, des morts, et nous réclamons la puissance de la résurrection. Comme il est écrit dans Éphésiens 5, réveille-toi, toi qui dors, que nous puissions nous réveiller de toute forme de sommeil spirituel pour entrer dans ta volonté et accomplir tes projets, Seigneur. Merci pour ton esprit qui va nous assister. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Nous pouvons prendre place. La Bible dit dans Matthieu 9:9. Matthieu 9:9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Notre séminaire sur le défi de l'évangélisation n'est pas une série d'enseignements, de prédications qui va se limiter à nous faire connaître la Bible, Jésus, mais c'est surtout le désir qu'il y a dans mon cœur, c'est que chacun puisse entendre la voix de Dieu, l'appeler lui-même. C'est vrai que beaucoup de choses seront dites, mais le plus important, c'est la voix de Dieu. Que nous ne puissions pas être distraits par un certain amour humain pour la connaissance biblique, mais que nous soyons concentrés sur ce que Dieu nous dit et va nous dire personnellement. Si Dieu a été capable, rien qu'en disant « suis-moi », là, il n'y a pas eu de séminaire. Il a dit seulement à Matthieu « suis-moi ».
il était dans son bureau. Il laisse son bureau pour suivre le Seigneur. Alors moi, je crois que avec tout ce qui sera dit, qu'il peut encore plus parler à chacun d'entre nous personnellement. Que ce ne soit pas une connaissance générale d'ensemble, mais que ce soit un appel direct personnel. Si rien que la phrase « Suis-moi » a suffi à transformer Matthieu, je crois que davantage une série d'enseignements pourrait faire mieux si nous sommes attentifs à la voix de Dieu. C'est ça mon conseil pour chacun d'entre nous, moi le premier, que nous venions rencontrer le Seigneur, écouter sa voix et non pas venir multiplier notre connaissance biblique, mais vraiment écouter sa voix parce que le sujet est sérieux, le sujet est très important, le sujet est lié à la venue de Jésus. Quand on parle d'évangélisation, on voit directement la venue de Jésus, puisqu'il faut le faire parce que Jésus-Christ revient. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prise de conscience. Nous avons 3 jours pour parler de ce défi de l'évangélisation. Et aujourd'hui, nous parlons de la prise de conscience de ce défi. Oui, parce que c'est un défi, parce que c'est un grand projet, difficile aux yeux humains. Donc, par conséquent, c'est un défi. Et nous allons voir pourquoi c'est un défi. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à prendre conscience de ces défis et à relever le défi avec son aide. La Bible dit dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà notre verset de base pour les 3 jours. Jean 3,16, « Dieu a tant aimé les hommes qu'il n'a pas voulu qu'ils périssent. » Et notre premier point, c'est de faire d'abord l'état, de voir l'état de ce qu'un homme sans Dieu, l'état de l'humanité, voir cela. Des fois, nous sommes tellement limités à notre petit domaine d'existence que nous ne prenons pas le temps de voir ce que les autres endurent, de voir ce que, en réalité, les païens endurent. Parce que l'état de l'humanité est grave. L'homme souffre et plus dur encore, il souffrira. Et il faut que nous puissions voir les choses en face. Parce qu'on peut, par distraction et par égoïsme, se limiter à nos problèmes familiaux, à nos problèmes personnels, et ne pas regarder ce que Dieu lui voit. Et notre premier point sera d'étaler la réalité du péché de l'homme. Et je commencerai par dire ceci, l'un des grands problèmes de l'homme, et le plus grand problème, c'est le péché. Le péché, c'est la puissance que tout homme a héritée d'Adam qui le pousse vers le mal. C'est un problème sérieux. Et ce problème va produire d'autres difficultés. Cette puissance qui nous pousse vers le mal, qui nous pousse vers l'égoïsme, qui pousse l'homme vers cela, eh bien, va produire d'autres difficultés que nous savons, que nous connaissons. La guerre, les meurtres, les viols, les jalousies, les abandons d'enfants, la prostitution, la prison, les condamnations à mort, toutes sortes de maux, et en particulier la maladie. La maladie vient du péché. Et après, cette maladie se multiplie, prend des ramifications. Tout ça, c'est l'état de l'humanité. Et quand j'étais là en train de venir tout à l'heure vers 4 heures, j'écoutais une émission sur Europe 1 où on expliquait la souffrance de beaucoup d'hommes mariés même, et surtout mariés, qui sont devenus esclaves des sites pornographiques sur Internet. Et beaucoup d'hommes mariés appelés pour avouer ça sur Europe 1. Et les psychologues qui étaient là, même les psychologues, disaient que les hommes qui font tout ça, et qui commence, et ils expliquaient qu'ils commençaient par ces sites, et puis aller dans les sites de rencontres, et aller faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire avec leurs femmes normalement, et ils expliquaient qu'ils étaient devenus esclaves. Et les psychologues qui étaient là disaient que ces hommes-là sont des autistes. Ce sont des autistes sexuels. C'est des gens qui... Vous savez ce que c'est qu'un autiste, hein? Voilà, donc c'est cela. Et les psychologues qui étaient là, même les psychologues critiquaient ça pour dire c'est de l'autisme, ce n'est pas normal. Et vous voyez des pères de famille appelés en détresse à cause de cet esclavage. Et à cause de ça, il y aura des divorces. À cause de ça, il y aura des séparations. Il y aura des enfants qui vont rester orphelins. Tout ça, c'est la souffrance de l'humanité. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un accro à la drogue? Comment il réagit lorsqu'il manque cette drogue-là? Comment il réagit? C'est la souffrance, bien-aimé. C'est la souffrance. Et c'est ça qui est l'état de l'homme. Il y a des gens qui sont accros à l'argent. Lorsqu'ils n'ont pas l'argent, ils ne sont pas bien. Il y en a beaucoup qui se suicident dès qu'ils sont licenciés du travail. Pour eux, licenciés du travail, c'est fini, ils meurent. Tout ça parce qu'ils n'ont aucune espérance. Le travail est devenu comme leur Dieu. Mais tous ces gens-là sont autour de nous, bien-aimés. Ils sont autour de nous. Notre problème, c'est quoi? Parce qu'ils sont tellement orgueilleux qu'ils ne reconnaissent pas leur souffrance. Nous aussi, on ne s'occupe plus d'eux. Nous aussi, on ne pense plus à eux parce qu'ils sont tellement orgueilleux qu'ils ne reconnaissent plus leur souffrance. Est-ce que, parce que quelqu'un est malade et qu'il est orgueilleux, qu'il ne faut plus s'occuper de lui? Est-ce qu'on a vu dans un hôpital refuser un malade orgueilleux? Non. On prend toujours. Et nos cœurs se sont fermés à tous ces gens-là parce qu'ils sont tellement orgueilleux qu'ils nous repoussent, qu'ils repoussent Dieu, et nos cœurs aussi se sont fermés. Et on ne regarde plus leurs souffrances telles qu'elles sont, bien-aimés. Un malade peut ne pas se reconnaître comme malade, mais il n'en reste pas moins qu'il est malade quand même. Et nos cœurs ne devraient pas se fermer. Et nous suivons. Et beaucoup commencent à suivre. Dans le milieu chrétien, chacun suit sa propre vie, ses propres préoccupations. Et on déclare, les hommes sont mauvais, mais oui, mais ils sont mauvais, ils sont malades. Ils sont malades, malades du péché. Et il y a toutes sortes de conséquences inimaginables. Lorsqu'on entend qu'un grand-père et une mère tuent leur fille, on ne comprend même pas qu'est-ce qu'elle aurait pu faire à cet âge-là. Je crois qu'elle avait 6 ans. Qu'est-ce qu'elle aurait pu leur faire à cet âge-là? Donc on ne peut pas saisir. D'où vient cette folie? Mais c'est le mal, c'est le péché. Et les hommes sont esclaves de cela. Nous devons nous réveiller sur l'état de l'humanité. Nous devons nous réveiller, voir comment les autres souffrent. Il y en a qui sont obligés d'abandonner leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de quoi les nourrir. Imagine-toi qui est là, que tu sois obligé d'abandonner ton enfant à l'état parce que tu n'as pas de quoi le nourrir. Imagine quelle souffrance tu vas endurer par rapport à cela. Et tout ça, c'est la vision, c'est le monde. On a vu aux États-Unis 2 millions de personnes dépossédées de leur maison, vivre maintenant à la rue. Des gens qui avaient des maisons hyper confortables. Parce que là-bas, quand on te construit une maison par une société, on te met tout en même temps. Le réchaud, on te met tout. Machine à laver, tout est, on te fournit tout, la moquette en même temps. Et donc, il faut savoir que leurs maisons sont vraiment confortables. Quand c'est construit par une société, c'est hyper confortable. Et il y a tout en même temps. Et ces gens-là se retrouvent en un mois de procédure bancaire. Ils se retrouvent dehors. 2 millions. Leur vie change comme ça. À cause de quoi? Du mensonge des banquiers par rapport à leur contrat. Et les gens sont dupés comme ça. Parce qu'ils n'ont pas vu, parce qu'ils n'ont pas Dieu. C'est ça l'état du monde. L'état du monde est grave. Et vous savez, le plus grave dans l'état des humains, c'est que la plupart sont aveugles. La plupart sont incrédules. Ils ne croient pas en Dieu et ils sont inconscients de leur maladie, ils sont inconscients. La plupart pensent être forts alors qu'ils sont faibles. La plupart pensent détenir une force alors qu'ils n'en ont pas. Alors que ce qu'ils croient être leur force, c'est effectivement leur perte. C'est comme cet homme qui pense être fort, qui tape tout le monde. Il croit que c'est ça qui fait sa qualité, sa force là. C'est ça qui fait de lui un homme important parce qu'il est fort physiquement. Alors avec sa force physique, eh bien, il tape tout le monde dans le quartier, il fait régner l'ordre. Mais un jour, il a tapé quelqu'un qu'il ne fallait pas taper. Et on l'a retrouvé dans le fleuve avec tous ses organes sexuels coupés, la langue coupée. Un jour, il a tapé, il a touché à celui qu'il ne fallait pas toucher. Donc, ce qui paraissait être son point fort est devenu son point faible. Donc, sa force lui a joué de mauvais tours. Après lui avoir donné confiance pendant des années, sa force lui donnait une certaine assurance, eh bien, cette même force est partie lui faire une folie. C'est ça la réalité du péché. Et beaucoup sont inconscients de cela. Vous imaginez que je viens d'un pays où beaucoup de gens font la magie. D'ailleurs, presque tous, ceux qui font la musique du monde, presque tous, ils font la magie pour avoir le succès dans cette musique-là. Et parfois, pendant qu'ils chantent, ils en parlent. Ils disent que là, c'est au niveau c'est un niveau magique. Dansez, et les gens dansent. Ils chantent ça, ils disent que là, maintenant nous vous faisons danser par la magie. Et les gens dansent, ignorants. Et vous savez que dans un orchestre, chaque soliste, un guitariste, le guitariste principal mourait presque tous les 2 ans. Donc dès qu'ils ont un guitariste, 2 ans après, il meurt. Mais nous allons voir encore un autre guitariste venir. On se dit, mais comment il n'a pas vu ses prédécesseurs mourir dans cet orchestre-là à cause de la magie? Lui, il vient aussi. Et lui aussi, il est vanté. Succès fou. 2 ans après, il meurt encore. Je dis, mais comment ne voit-il pas? Donc la gravité du péché, c'est que ça rend même aveugle. Donc tu ne te rends pas compte que tu es en train de périr. Tu ne t'en rends plus compte. C'est ça que moi je trouve le plus grave dans le péché sur terre. Parce qu'on va voir le plus grave après. Mais le plus grave sur terre, c'est l'aveuglement. Le péché te fait plus rendre compte que tu es en train de périr. Tu deviens aveugle. Ce que tout le monde voit clairement, que chaque guitariste principal de cet orchestre meurt, toi tu ne le vois plus. Tu es omnibulé par ton succès. Et ils mouraient tous comme ça. Quel est le dictateur qui ne connaît pas l'histoire de Napoléon, qui ne connaît pas l'histoire d'Hitler, qui ne connaît pas l'histoire de tous ces dictateurs qu'on a chassés de leur pays, qu'ils ont fui, qu'on a tué, c'était qu'on a emprisonné. Tous, ils voient ça à la télé. Ils voient leurs collègues dictateurs tomber. Mais comment aucun d'entre eux ne prend conscience qu'un jour lui aussi tombera pareil? Comment ne peuvent-ils pas penser à ça? Mais ils ne voient pas cela. Parce que le péché les a rendus aveugles. C'est ça, bien-aimé, l'état du monde. C'est triste de voir que quelqu'un n'arrive même plus à tirer des leçons qu'un enfant de 8 ans tirerait rapidement. Vous savez, un enfant de 8 ans, s'il voit quelqu'un traverser, se faire écraser par une voiture, une deuxième personne traverser, se faire écraser par une voiture, il ne va plus traverser. Hein. Il va rester là, en train d'attendre de l'aide. Il ne va plus traverser. Mais des vieux, des gens qui ont fait 30 ans de vie dans la maturité de l'âge, ils n'arrivent pas à tirer des leçons de l'histoire. Pourquoi? Parce que le péché les a aveuglés. Le péché les a aveuglés. Est-ce que vous avez déjà vu, pendant la nuit, vous passez dans les rues, vous voyez des filles ou bien des femmes dans le froid, en train d'attendre des clients? Bien-aimés, quelle douleur ça fait au cœur. Pendant que toi, tu es dans ta voiture, tranquille, elle est dans le froid, en train d'attendre des clients, ça fait mal. Ça fait mal qu'un être humain devient comme un objet. Ça fait mal. nous devrions réaliser cela et réagir. Et bien aimé, le plus grave, c'est quoi? C'est que tous ceux qui pêchent, le thème d'aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Tous ceux qui pêchent et qui refusent la grâce de Dieu iront en enfer. Et l'enfer, c'est une réalité. Nous devons prendre conscience de cela. Le feu éternel, c'est une réalité. Et on n'en sort pas. On n'en sort pas. Là, quand tu entres, tu meurs dans le péché, c'est fini. C'est fini. Il faut qu'on se réveille pour réaliser que tous ces gens-là qui sont dans le péché sont sur l'autoroute de l'enfer. L'autoroute. Même si on peut trouver certains bien habillés, beaux, présentables à la télé, mais en réalité, ces gens-là sont dans la magie. En réalité, ces gens-là sont dans l'escroquerie. Ils peuvent être politiciens, apparemment ils sont là devant, ils sont tranquilles, mais en réalité, ils ont tué pour arriver à certains postes. Sachons bien aimé que s'il n'y a personne pour leur témoigner de l'évangile, eh bien, ils iront dans le feu éternel. C'est pourquoi Dieu veut qu'on se réveille. Il faut qu'il y ait des gens pour toucher toutes les catégories de l'humanité. Toutes les catégories de l'humanité. C'est parce que nous dormons, nous commençons à nous occuper que de ce qui nous intéresse directement. On ne s'occupe plus du souci du cœur de Dieu. Et ce n'est pas bon, bien-aimé. Prenons conscience que tous ces gens-là sont en train d'aller pas à pas dans le feu éternel. Pas à pas. Peut-être un simple tract que tu vas déposer dans la boîte aux lettres du voyant du coin va l'aider. Juste un tract qui lui parle de Jésus. On va parler du travail demain, on va parler du témoignage demain. Mais il faut qu'aujourd'hui nous prenions conscience et qu'on dise: Seigneur, si je vis, c'est pour que je sois un témoin. Je ne vis pas pour régler mes problèmes, parce que tu as dit dans Matthieu 6 que nous ne puissions pas nous inquiéter, que toi tu règles nos problèmes, tu connais nos soucis. Je vis pour, Seigneur, être un témoin. C'est ça la prise de conscience. Car si je ne vis pas pour être un témoin, beaucoup risquent de ne pas te connaître et ils se perdent. J'ai lu le témoignage d'un homme qui est arrivé dans le satanisme au niveau de boire du sang. Donc, il vivait comme un vampire. Donc, il vivait du sang humain. Il fallait qu'il coince une prostituée la nuit pour bloquer son cou et boire son sang. Cet homme a dit: mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui puisse me parler de Jésus. Et comment il s'est converti? Un jour, il a déposé un chèque dans une banque. Mais comme sur ce chèque, comme c'est l'employé de la banque, c'était une chrétienne, et que sur le chèque, c'était écrit église satanique, hein, ces gens-là étaient clairs. Elle aussi, elle écrit sur le chèque: je prie pour vous que Jésus vous sauve. Un truc de ce genre-là. Bien-aimé, rien que cette phrase-là, à partir de ce moment, Satan n'a plus contacté cet homme-là. Il a dit: j'ai commencé à avoir des problèmes, j'ai cherché Satan. Mais depuis cette phrase-là sur le chèque, eh bien, Satan m'avait fui. Bien-aimé, rien qu'une phrase. Rien qu'une phrase. Je prie pour que Jésus vous sauve. Je prie pour vous dans mes prières, afin que Jésus fasse quelque chose. Rien que cette phrase a changé pas à pas la vie de cet homme. Pourquoi? Parce que cette femme n'a pas supporté de recevoir un chèque église satanique. Elle n'a pas supporté de voir un homme se perdre comme ça. Aujourd'hui, on est tranquille, on regarde l'humanité mourir, on regarde. On jubile parce qu'on est sauvé. Mais est-ce qu'on est sauvé pour rester jubilé sur terre? Le grand jubilé sera au ciel. Sur terre, nous sommes sauvés pour être des témoins, Prenons conscience de cela. Prenons conscience de la détresse humaine. Et ce qui nous arrive quand on prend conscience de la détresse humaine, c'est qu'on se dit quoi ? La tâche est trop grande. Voilà quelque chose qui nous freine aussi. On se dit, mais oulala, il y a guerre à gauche, guerre à droite, prostitution à gauche, prostitution à droite. Bien-aimé, le deuxième point, c'est que Dieu est amour et il n'a pas voulu laisser les choses ainsi. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Malgré la détresse humaine, Dieu a la solution. Dieu a la solution. Parce qu'il est amour. 1 Jean 4, 8 dit Dieu est amour. Dieu a tant aimé l'humanité. Il aime beaucoup les humains. Malgré tout ce qu'on dit là, on a étalé comme détresse. Dieu a la solution. Ça, il faut qu'on prenne conscience aussi de cela. On ne doit pas seulement prendre conscience du fait que c'est pourri. On ne doit pas prendre conscience seulement du fait que la situation est grave. On doit prendre conscience de ce que la puissance du salut de Dieu est infiniment grande. Et donc, Dieu a la capacité de sauver chaque homme sur terre. Il faut qu'on prenne conscience. Parce que le diable vient à notre oreille pour nous dire, c'est perdu quoi. Laissez tomber, occupez-vous de vous-même quoi. Parce que c'est, si vous devez chercher à sauver les autres, c'est une tâche trop grande. Dieu ne te demande pas à toi de sauver toute l'humanité. Lui-même s'en charge. Il te demande à toi de jouer le rôle qu'il a prévu pour toi. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui que tu écoutes la voix de Dieu qui te parle à toi. Qu'est-ce que Dieu va te dire? Ne prends pas les choses d'une manière générale. On est venu écouter un enseignement. Rencontre Dieu ce soir. C'est ça l'objectif. Rencontre Dieu. Dieu ayant vu le péché des humains, il a envoyé Jésus. Premièrement, pour leur annoncer qui était Dieu réellement. Pour leur dire que Dieu était amour, il était pur, il était saint. Et que tout ce qui est péché n'était pas de Dieu. Et Dieu ne voulait pas de ça. Vous savez, le péché, ça veut dire quoi? Rater l'objectif. Donc, en péchant, nous ratons l'objectif de Dieu. L'objectif pour lequel Dieu nous a créés. En allant dans la colère, dans la jalousie, dans la haine, dans l'orgueil, dans l'amour des biens de ce monde, nous changeons. Nous sortons de l'objectif de Dieu. Et Jésus-Christ est venu pour donner les vrais objectifs de Dieu. Montrer par sa propre vie qui était, quelle était la volonté de Dieu pour l'homme. C'est pourquoi on appelle Jésus le dernier Adam. Donc il en finit avec la déviation qui s'est installée par Adam dans toute l'humanité pour devenir le second homme. Il est à la fois le dernier Adam et le second homme. Si vous lisez la Bible, donc vous verrez ces deux termes pour Jésus. On l'appelle le dernier Adam, mais on l'appelle aussi le second homme. C'est l'homme selon la volonté de Dieu. Donc il est venu nous montrer qu'est-ce que Dieu attend de l'homme. Dieu attend de l'homme de vivre des valeurs comme la paix, la joie, l'amour, s'occuper de l'autre, d'autrui. Il attend de l'homme ces valeurs-là. Il attend de l'homme de rejeter la haine, la guerre, la violence. Et Jésus, par sa vie, est venu nous montrer quel est l'homme que Dieu veut. C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu nous annoncer qui était Dieu, parce que lui seul a vécu avec Dieu. Mais il est surtout venu être l'agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. C'est-à-dire, Dieu a trouvé la solution. Il allait prendre tous les péchés des humains et mettre sur Jésus. Ça, c'est la première solution par rapport au fait d'aller en enfer après avoir péché. Et comment faire pour sauver les humains? Puisque le péché les condamne directement au feu éternel. Eh bien, il a pris tous les péchés des humains, il a mis sur un innocent, Jésus. Voilà la solution de Dieu. De sorte que quiconque croit en Jésus, peu peut être sûr qu'il va au ciel. Parce que ses péchés vont sur Jésus. Le Seigneur a fait encore une solution par Jésus. A produit encore une solution. La solution par rapport à la vie d'ici-bas. Parce que la puissance du péché, même si nous avons la garantie en croyant en Jésus d'être sauvé, eh bien nous avons encore le combat avec la puissance du péché qui est dans notre chair. Parce que seul notre esprit a été régénéré. Mais notre chair a encore la puissance du péché en elle. Mais Dieu a donné dans l'esprit de l'homme la domination par son Esprit Saint sur le péché. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Nous avons été ressuscités avec Christ, de sorte que notre esprit rempli du Saint-Esprit soit plus fort que la puissance du péché qui est dans notre chair. C'est ça une des choses que Dieu a résolues, de sorte qu'on puisse vivre sans péché. De sorte qu'on puisse vivre dans l'amour parfait. De sorte qu'on puisse vivre d'une manière désintéressée par rapport aux choses de ce monde. Il a permis la puissance de la résurrection. Voilà ce que le Seigneur a fait par Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons prendre conscience de la puissance du salut qui est en Jésus. Vous savez, Jésus, ça veut dire quoi? Jésus, ça veut dire Yahvé sauve, Yeshua. Ça veut dire Dieu sauve, Yahvé sauve. Donc, c'est par Jésus que Dieu vient sauver l'humanité. Dieu ne vient pas sauver l'humanité seulement par toi. Non. C'est par Jésus. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Que toi, tu fasses partie du corps de Jésus. Donc, tu as ton rôle en tant que membre pour faire quelque chose, pour contribuer à ce salut total. C'est ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Tu as ton rôle dans le travail de salut de Jésus. Et vous savez, à la croix, Jésus, qu'est-ce qu'il a crié dans Jean 19, 30? La Bible dit qu'il a crié, tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Mais c'est le salut de l'humanité, puisque Jésus est venu pour cela. Son nom c'est cela, Yahvé sauve, il est le salut de Dieu. C'est lui qui vient régler le problème du péché qui sépare l'homme de Dieu, qui rend l'homme aveugle et qui l'enfonce davantage dans le péché et qui l'amène assurément dans le feu éternel. Jésus-Christ vient éclairer le péché de l'homme. C'est la lumière du monde. Vous savez, les pharisiens et d'autres autorités religieuses étaient là avec leurs pierres, voulant tuer la femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Mais leur problème, c'est qu'ils ont cherché des affaires avec la lumière du monde qui était là, Jésus. Ils disent à Jésus, la loi le dit, il faut qu'on la tue. Jésus dit, mais il n'y a pas de problème, mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jésus, par cette phrase, a éclairé leur cœur. Ils pensaient être sur la bonne voie, mais Jésus leur a montré que vous aussi, vous êtes sur la voie de l'enfer. Pareil que cette femme. Vous êtes sur cette voie. Mais cette femme, la différence avec vous, c'est que cette femme sait qu'elle est sur cette voie-là. Elle le sait, mais vous ne le savez pas. C'est ce que devient le péché. Le péché fait qu'un orgueilleux se croit le plus humble des hommes. Le péché fait qu'un mauvais acte est justifié comme étant un bon acte. Il y a des gens qui justifient parfois par des faux versets. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça n'existe pas dans la Bible, ça. C'est des paroles égoïstes. Et on peut justifier. Ah non, mais moi je dois dormir. Hein. Mais oui, mais... la Bible dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas a commis un péché. C'est clair. Ce n'est pas seulement voler, mentir. C'est quand on peut faire un bien et qu'on ne le fait pas, eh bien, on a commis un péché. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dans Jacques 4, si vous voulez aller vérifier. Je crois verset 17. Donc nous devons, bien aimés, prendre conscience de la puissance de salut de Jésus-Christ. Il est venu éclairer, il nous éclaire. Par son esprit. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Personne ne peut venir à Jésus si qui ne l'attire. C'est Dieu l'attire, le Père l'attire. Ça veut dire quoi? Qui maîtrise le salut des hommes? C'est Dieu. Le salut dépend de toi? Non, ça dépend de Dieu. Ça nous soulage. parce qu'on a entendu des prédications qui faisaient dépendre le salut de nous. Non. Nous sommes les instruments de Dieu. Le salut dépend de Dieu lui-même. Quand Dieu veut sauver, son esprit entre en action. Mais son esprit cherche des instruments. Ma prière, c'est que tu ne loupes pas ton rôle. Parce que quelqu'un d'autre va le prendre. À quoi ça sert d'être de Dieu et de louper son rôle? Quel est le lien vraiment qui t'unit à Dieu? Un lien commercial? Tu as reçu ton salut pour aller au ciel? Ou bien un lien d'amour, de communion entre père et fils? Quel est le lien qui t'unit à lui? Si le lien d'amour, c'est le lien d'amour, de communion entre père et fils, alors forcément tu dois jouer ton rôle. Réveille-toi. Prends conscience. Toi qui te croyais petit, prends conscience que le salut ne dépend pas de toi. Le salut appartient à Dieu. J'aime ce passage dans Apocalypse chapitre 7. La Bible dit, le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau. C'est eux qui donnent le salut. Alors, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me tenir prêt. Là où ce salut-là passe, pour que je sois l'instrument par lequel il passe. C'est cela, bien-aimé. Soyons forts. De même que nous devons prendre conscience de la détresse humaine. De même que nous devons prendre conscience de la tâche qui est immense. La tâche est immense. Déjà, rien que même dans nos églises, nous avons à changer des gens, à évangéliser pour changer, à parler dans la vérité pour changer certains. Mais en plus, dehors, la tâche est grande. Regarde tes voisins. Il y a certains d'entre nous qui ont tout un immeuble dans lequel ils habitent. Ils sont le seul chrétien. Je parlais avec une fille d'une autre ville. Elle me disait, ils sont, je crois, plus de 1000 dans leur lycée. Il n'y a que 2 chrétiens. Alors vous vous imaginez l'immensité de la tâche. La tâche est grande. Vous vous imaginez l'incrédulité des gens aujourd'hui. Vous leur parlez de Jésus. Ils disent, j'en ai pas besoin. Comme Marilyn Monroe, une semaine avant qu'elle meure, il y a un pasteur qui est parti lui parler de Jésus. Elle a dit, j'en ai pas besoin. Une semaine après, elle est morte. Bien-aimée. Les gens vont vous dire, j'en ai pas besoin. Incrédule. Et devant cette incrédulité, notre cœur peut se fermer pour dire, ils n'en veulent pas, bon, on laisse tomber, c'est pas... Non, bien-aimé, on ne laisse pas tomber. Pourquoi? Parce que le salut dépend de Dieu. Dieu, non seulement a la puissance de sauver tout homme, deuxièmement, Dieu maîtrise cela. Toutes ces données-là, Dieu maîtrise. Parce que la Bible, Jésus est clair dans Jean 6, 44, « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » Nul ne vient à moi. Donc Dieu maîtrise ces choses-là. Ça doit nous pousser à quoi? Bien sûr, à la prière, puisque c'est Dieu qui maîtrise. Donc c'est la prière qui va faire la différence. C'est pas seulement parler, c'est la prière aussi. C'est la recherche de l'action de Dieu qui importe. Que Dieu agisse, parce qu'on sait que Dieu maîtrise ce salut-là. Nous devons avoir confiance en Dieu. Que le salut de ton voisin est entre les mains de Dieu. Même s'il paraît rebelle, têtu, mauvais, méchant. Il y en a, même quand ils sourient, leur visage est méchant quand même. Et malgré ça, nous devons toujours espérer. Tant qu'un homme est vivant, il peut changer. Le salut appartient à Dieu. Dieu a la capacité de sauver. Tant qu'un homme est vivant, il est sauvable. Satan nous a beaucoup découragés en nous disant que la tâche était trop grande. Les hommes étaient trop mauvais. C'était fini. Non. Tant qu'il y a encore la vie, ce n'est pas fini. L'Esprit de Dieu est en action. Tant qu'on n'est pas encore enlevé, ce n'est pas fini. La vraie question, bien-aimé, c'est toi. As-tu pris conscience de ton rôle sur terre? As-tu pris conscience? La vraie question, c'est celle-là. La vraie question, ce n'est pas le mauvais cœur de l'autre. C'est toi. As-tu pris conscience de la capacité de salut de Dieu? Paul qui tuait les chrétiens, Dieu l'a sauvé. As-tu pris conscience de la capacité de salut de Dieu? Zachée qui était hyper riche. Parfois on est démoralisé, déstabilisé par certains riches. Parce qu'ils sont tellement riches, ils semblent avoir tellement besoin de rien du tout, qu'on se demande comment leur parler de l'évangile, quoi. On se pose des questions, mais bien aimé, Zachée était pareil, hein. Il était riche. avait un pouvoir politique parce qu'il dépendait de Rome directement. Il avait tout. Quelqu'un qui dit que je vais rembourser à tout le monde ce que je lui ai volé, multiplié par 4, vous imaginez combien il avait, il était riche. Mais Jésus a touché son cœur. Dans Luc 19, il a touché son cœur. Et vous savez la phrase que Jésus sort au verset 10 de ce chapitre 19, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà, bien-aimés, plus les gens sont perdus, plus Jésus est dans les parages, même si ça paraît sec. Prenons conscience de la capacité de salut de Dieu et de la maîtrise de l'affaire. Prenons conscience de cela. C'est très très important. Prenons conscience. Dieu peut sauver toujours. Dieu veut sauver. Et il a la capacité de sauver. Il suffit pas seulement de pleurer par rapport à la détresse humaine. Il faut aussi prendre conscience de cette capacité que Dieu a de sauver, de sa maîtrise. Parce que le nom de Jésus, c'est Yahvé sauve. Quand on est démoralisé, déstabilisé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher davantage qui? Jésus. Dans la prière. Chercher davantage qui? Jésus. Comprendre, comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, il dit, je considère tout comme perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon sauveur, mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout. Il dit que il ne veut que rien ne l'empêche de connaître davantage Jésus, puisque plus tu connais davantage Jésus, plus tu réalises ce qu'il a fait à la croix. Bien-aimé, le Fils de Dieu. Dernièrement, je voyais le film de Jésus. Je voyais à un certain moment, hein, on le pousse comme un malfaiteur. Bien-aimé, il chancelle. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Rien que, je n'attends pas qu'on arrive déjà à la crucifixion. Rien que le fait que le Fils de Dieu chancelle, poussé par un humain, je dis, c'est pas possible. Et quand je vois ça, je dis, donc le salut est possible pour tout homme. Quand je vois la souffrance de Jésus, je dis non, on peut y aller. Dieu va sauver. Il va sauver encore. Parce que Jésus a payé le prix pour cela. Il va sauver. La Bible dit que Jésus est passé dans le lieu très saint, en portant son sang devant le Père pour dire voilà, ça y est, j'ai versé mon sang. Maintenant tu peux pardonner à tout homme. Parce que j'ai payé à la place. Et Dieu veut sauver. Car la Bible dit dans 1 Timothée 2:4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Il le veut. Et il en a payé le prix. C'est la mort de Jésus-Christ. C'est les souffrances de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, injurié. On crache sur lui. Tout cela pour toi et moi. Bien-aimé. Tout cela aussi pour le mauvais qui est dehors, le bandit qui est dehors, pour lui aussi. Afin que quiconque croit en Jésus soit sauvé. Alors, prenons conscience du prix payé par le Seigneur, par le Père, à travers son Fils, et croyons au salut de tout homme. Croyons. Bien-aimés, croyons. Et passons aux actes en disant, Seigneur, me voici devant toi. J'ai compris que si nous laissons les humains comme ça, ils meurent déjà sur terre, esclaves de leurs péchés. Leurs péchés les font souffrir, leur donnent le cancer à cause de la fumée, de la cigarette. Ils souffrent à cause de l'héroïne, de la drogue, ils souffrent à cause de leur amour pour le jeu, casino, toutes ces choses-là. Il y en a même qui divorcent à cause de ça, il y en a qui sont devenus malades. On a déclaré cela une maladie aujourd'hui. Le fait que certains soient dépendants des casinos, c'est devenu une maladie. Eh bien, Seigneur, nous prenons conscience de cela. Mais nous prenons aussi conscience que Jésus a payé le prix pour la délivrance de tout homme. Il a payé le prix. Réveillons-nous, bien-aimés. Et quand on dit ça au Seigneur, on dit, j'accepte de devenir le porteur de ton message. Quel est le message? C'est que Dieu n'est pas d'accord. Certains se posent la question, mais oui, mais pasteur, si je parle de ce riche-là de l'évangile, mais lui, il est riche, bon, ça va lui faire quoi? Non, non, non. Il faut que tu l'avertisses. Quand on est en train d'avertir les gens à la télévision sur la crise économique, on ne dit pas qu'on avertit seulement les pauvres. On avertit tout le monde. Les riches et les pauvres. S'il y a une épidémie de grippe aviaire, à la télé, on ne dit pas, écoutez, on avertit seulement les ceux qui sont près des coqs ou des... Non, non. On avertit tout le monde. Et donc, le riche qui paraît à l'aise, fort, tu dois l'avertir que sa force est nulle. L'apôtre Jacques le dit, dites aux riches de ce monde que leur richesse est rouillée. C'est de la rouille, c'est faux tout ça. Ça passe. Ça passe. Leur richesse ne peut pas les sauver du cancer. Ne peut pas les sauver de crise cardiaque. Ça ne peut pas. Sinon, ils ne mourraient pas. Leur richesse ne peut pas les sauver de la vieillesse. Paul Newman est mort. Regardez comment il était physiquement. Mais qu'est-ce que son argent a pu faire pour ça? Rien. Ce riche-là est aveugle. Il ne sait pas. Au fait, il a fait peut-être de longues études, mais il n'a plus d'intelligence. La Bible dit que le mal enlève l'intelligence. Il n'a plus d'intelligence pour voir qu'il y a eu des riches avant lui. C'est ça le problème. Il y a eu des riches avant lui qui ont fini certains dans des maisons de retraite. D'autres ont fini dans des asiles psychiatriques. Il ne s'en rend plus compte. Le problème est là. Et toi, tu es là pour le réveiller par rapport à cela. Pour lui dire que ses richesses sont rouillées. Sont rouillées. Nous devons dire à tous les humains que la façon dont ils marchent, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et que non seulement ça va les perdre sur terre, ça va les perdre aussi, ils iront au feu éternel. Parce qu'ils sont en train d'utiliser le corps que Dieu a donné pour un objectif et ils l'utilisent pour un autre objectif. Et donc Dieu n'est pas d'accord, il faut qu'ils soient au courant. Il faut qu'on soit porteur de ce message-là. Porteur de notre message lié au premier, c'est que Dieu a trouvé la solution. C'est Jésus. Jésus peut montrer à chacun le vrai objectif de l'humain, selon Dieu. Jésus a porté nos péchés à la croix, et donc tous nos péchés peuvent être pardonnés. On peut entrer dans une nouvelle nature. C'est pourquoi il est écrit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Voilà le message que nous avons. Dire à cet homme-là, qui semble insensible, il y en a qui sont insensibles, oui, mais ça ne me dit rien, mais il faut quand même qu'il écoute. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait des porteurs du message. Il faut que dans ta vie, les gens voient Jésus et se disent, mais tiens, il y a autre chose que l'argent. Il y a autre chose que le mensonge. Il y a autre chose que la débauche. Il y a autre chose qui donne aussi la joie et la vraie joie, puisque personne ne peut voler ça. Alors que l'alcool, tu vas avoir la joie pendant que tu prends ça, mais dès que ça finit, il y a même ce qui, il y a un langage qui appelle ça quelque chose de bois. Eh bien, bien aimé, tu te réveilles mal, tu vomis, les conséquences sont mauvaises. Alors que la joie et la paix n'ont jamais de mauvaises conséquences et n'ont que de bonnes conséquences. Plus tu as la paix, plus tu as la joie, plus tu es bien. Il n'y a pas de mauvaises conséquences. Plus tu aimes quelqu'un, tu es bien. Il n'y a pas de mauvaises conséquences. Bien-aimés, nous devons être les porteurs de ces messages-là. Maintenant, nous clôturons en disant, mais quelle est ta part dans tout cela? Quelle est ta part? Ta part, c'est de saisir l'appel de Dieu, qui dit dans Matthieu 16, 15, allez, faites des... de Matthieu 16, Marc 16, 15 à 20, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça ne veut pas dire forcément c'est toi qui parleras, mais tu vas y contribuer d'une manière ou d'une autre. Tu parleras aussi au temps de Dieu, mais la Bible te dit va. Si je t'ai sauvé, c'est pour cela. Je t'ai sauvé pour que tu ailles faire ce que moi je suis venu faire, sauver tout homme. Si Jésus t'a sauvé, c'est pour cela. Bien, mais quand une église perd la notion de l'évangélisation, elle est en train de mourir. Quand une église néglige la réalité de l'évangélisation, c'est une église qui va vers sa mort, en réalité. La vie de l'église, le poumon de l'église, c'est l'évangélisation. Nous vivons pour sauver les autres. Nous ne vivons pas pour faire une belle église, un endroit où on se sent en sécurité. Nous vivons pour sauver les autres tout en adorant l'Éternel. C'est ça pourquoi nous vivons. L'adoration et le salut des âmes. Et bien aimé, ta part, c'est de dire oui. Seigneur, je réponds oui à ton appel. Je veux vivre pour le salut des autres. Je vais m'oublier. Car la Bible dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Je vais m'oublier. Je vais être à tes ordres et sauver les autres. Je ne sais pas ce que tu me demanderas de faire, mais je le ferai parce que je sais que ça sera toujours pour le salut des autres. C'est ça. Première chose, répondre oui. Deuxième chose, mettre foi. Mettre ta foi en la capacité, en la puissance de salut de Dieu. C'est la deuxième chose. Tu dois avoir foi que Dieu va faire, il va sauver. Même si ça traîne 10 ans, il y a des gens qui ont fait 12 ans en Afrique du Sud, aucun résultat. Ils ont voulu abandonner, Dieu a dit vous continuez. Bien-aimés, cette année-là où Dieu a dit vous continuez, il y a eu des miracles, des guérisons à un tel niveau qu'il y a eu des milliers, des milliers, des milliers de conversions. Bien-aimés, Dieu est vivant. Peut-être parfois il nous prépare, nous ne comprenons pas. Nous voulons les résultats rapidement, il nous prépare. Mais ce qui est sûr, nous devons persévérer, dire Dieu va sauver par nous. Il le fera. Parce qu'il le veut. Parce qu'il a payé déjà le prix. Il faut qu'on soit conscient de cette capacité-là. Il ne faut pas écouter les gens qui disent « Mais les Français sont durs. Tel est dur. » Oui, c'est, ils sont durs, mais l'amour de Jésus est plus grand que leur dureté. Et plus fort que leur ignorance. Leur aveuglement peut être brisé par la lumière de Jésus-Christ. Dieu, quand il a appelé Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 26, il a dit « J'étais envoyé pour ouvrir les yeux des païens. » Pour les amener des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu. Il a donné la capacité à Paul. Il dit dans Romains 1.5, Dieu nous a donné l'apostolat, Romains 1.7, pour amener les païens à l'obéissance de l'évangile. Donc la capacité de salut de Dieu est là. Nous devons mettre foi en cela. Demeurer dans cela. Et quand parfois tu es déstabilisé par les échecs, pense à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Pense comme je viens de dire, on a poussé, on a craché sur lui. Et toi tu crois que c'était pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il construisait le salut de l'humanité. Ça a été déjà fait. Alors quand tu penses à ça, tu dis ça y est. Parce que ça va te donner une sorte de colère. Comment le Fils de Dieu peut être ridiculisé comme ça? Bien-aimé, le Seigneur veut sauver. Et il a la capacité. Tu dois mettre foi en cela. Nous laissons changer la cassette pour pouvoir tout enregistrer. Merci Seigneur de parler à chacun d'entre nous, Seigneur. Je crois en ta capacité par ton Esprit Saint qui convainc, Seigneur. Nous ne voulons pas faire du tourisme dans ton église. Nous voulons te chercher, Seigneur, et nous te cherchons encore ce soir. Merci de nous parler par ton esprit. Bien-aimés, comme j'avais dit au début, que chacun puisse chercher qu'est-ce que Dieu lui dit. Et moi aussi, j'ai cherché qu'est-ce que Dieu me disait pendant pour ces 3 jours. Et j'ai reçu le passage de Luc 12 que je veux lire pour clôturer. Luc 12. Luc 12, à partir du verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, peut-être tu vas te poser la question, mais quel est le lien avec l'évangélisation? On va le voir. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture. Et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lis. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà maintenant le verset que j'ai reçu dans mon cœur. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la tienne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Donc soyez prêts. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de l'ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bien-aimés, voilà le message que j'ai reçu. Vendez, vendez tout ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Qu'est-ce que nous possédons? Nous possédons des honneurs. Nous possédons des biens matériels. Nous possédons le corps. Nous possédons la jeunesse. Ce que tu considères comme étant une possession, eh bien Dieu veut que tu mettes cela à son service. Que tu donnes cela aux pauvres. Tu dis, ma jeunesse, eh bien, c'est pour les pauvres. C'est pour les pauvres. Mon honneur, Bac plus 10, c'est pour les pauvres. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, je n'ai pas fait des études pour rien. Moi, j'ai dit, oui, tu les as fait pour rien. Tu les as faites pour que Dieu se glorifie. Le jour où tu diras, je laisse tomber mes études, je dis mes diplômes plutôt, je laisse tomber mes diplômes parce qu'il y en a qui vont profiter pour ne plus étudier. Donc, je laisse tomber mes diplômes pour suivre le Seigneur. Eh bien, c'est ce jour-là que tu atteins l'objectif que Dieu a prévu pour toi. Même si Dieu va t'utiliser dans ton domaine de diplôme, tu vas dire, Seigneur, je ne réussis pas parce que j'ai eu un diplôme, j'ai réussi parce que tu m'aides, parce que tu as déjà vendu ton diplôme, tu l'as donné aux pauvres. Vendez tout ce que vous possédez, ce qui fait votre force, ce qui fait votre honneur, ça ne doit plus compter, ça ne doit plus exister. Ce qui doit exister, c'est vos trésors au ciel. Bien-aimés, quand je parle comme ça, je réalise comment quelqu'un qui vend tout cela est riche, quoi. Comment il marche comme Jésus lui-même, sortant l'argent d'un poisson pour payer les impôts, multipliant les pains. Bien-aimés, l'apôtre Paul, il voyageait sans argent. Il arrive à Malte. Il prie pour le père du gouverneur. Il est guéri. On lui donne. Il habite dans le palais. Est-ce que toi tu as déjà goûté habiter dans un palais? L'apôtre Paul, lui, il a habité dans un palais. Il ressort de là pour continuer son voyage. On lui donne des biens à tel point que le bateau même avait du mal à contenir tout ce qu'on pouvait lui donner. Parce qu'il avait qui? Jésus. Et il y a des moments avec Jésus, ils étaient ensemble dans la prison. Il avait la plus grande richesse. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 6, nous sommes pauvres, mais nous avons tout. Peut-être à l'instant T, il est pauvre, il n'a rien. Mais son trésor est rempli sur terre. Et quand Dieu le veut, ça se manifeste. Bien-aimé, celui qui vend tout et suit Jésus, eh bien, Il est l'homme le plus riche, le plus puissant, le plus fort. Parce que Jésus peut marcher pleinement avec lui. Rien de ce monde n'est un obstacle pour que Dieu se manifeste dans sa vie. Bien-aimé, c'est étonnant comment il donnait ce verset-là pour me parler de l'évangélisation. Je crois que Dieu veut me dire que ce qui bloque les chrétiens, c'est le souci de ce monde. Ils sont trop chargés. Ils sont trop chargés. Ils veulent faire un bon mariage. Ils veulent faire, avoir des enfants avant de mourir. La dernière voiture qui est sortie parce que ça consomme moins. Ils pensent. Et ils perdent leur temps à penser pour des choses que Dieu donne facilement à ceux qui sont à lui. C'est écrit dans Psaume 127. En vain, vous souffrez, vous réfléchissez, vous cherchez à obtenir des choses que moi je donne simplement à mes bien-aimés. Simplement. Bien-aimés, il y a des jours. Un jour, je suis parti plus tôt à Londres et je faisais le retour, au voyage retour. J'arrive pour enregistrer, faire l'enregistrement. On me dit, monsieur, on vous fait passer à la première classe, bien-aimé. Mais je dis, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a plus de place à la deuxième classe, tu passes à la première classe, bien-aimé. J'ai dit, ça c'est Dieu, ça. Un jour, je vais aller à Martinique. Je vois quelqu'un, mais je vous connais, pasteur. Ben, je vous change de classe. L'hôtesse qui était là. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il s'occupe de tout. Quand tu es Dieu, tu as Dieu, tu as tout. Et comme je l'ai raconté dernièrement, j'étais dans le train. On annonce qu'il y a des intempéries, le train va changer de route, donc on va avoir 1h30 de retard. J'ai dit, mais les gens doivent quitter Rouen pour venir me chercher à Paris parce que, comme s'il y a 1h30, je ne pourrais pas faire ma correspondance. Bien-aimé, tout le monde a pris son téléphone pour appeler la personne qui devait chercher à la gare de Lyon. Mais moi, j'ai entendu comme une voix qui m'a imposé de ne pas prendre le téléphone. Je suis resté. Tout le monde prévenait. On est resté là 10 minutes. Je n'ai prévenu personne. Après 10 minutes, on entend encore le monsieur qui dit, non, les intempéries sont finies. On continue la voie normale et on est arrivé à l'heure pile, bien-aimé. Celui qui marche, qui vend tous ses biens, eh bien, c'est celui avec qui Dieu sera. Et il vivra la gloire de Dieu. Il verra des conversions. Il verra Jésus parler et sauver beaucoup de personnes. Il sera fort. Il passera de la faiblesse à la force. Mais c'est lui qui se confie dans les soucis de ce monde, qui veut satisfaire ce que le journal télévisé demande à satisfaire. Ce que le christianisme d'aujourd'hui qui cherche la satisfaction terrestre, demande à satisfaire. Et bien aimé, celui-là se sentira toujours pauvre et malade, en train toujours de chercher quelque chose pour combler sa vie. Mais celui qui vend tout, il est libre. Il peut maintenant suivre Jésus tranquillement. Alors je t'appelle, bien aimé, à répondre oui à Jésus. Oui, Seigneur, ma maison n'est plus la mienne. Oui, Seigneur, mes chaussures ne sont plus les miennes. Oui, Seigneur. Mon corps ne m'appartient plus. J'accepte de le mettre à ta disposition. Oui, Seigneur. Mon caractère n'est plus à moi. Il y en a qui disent, moi je n'aime pas telle chose. Non. Avec Jésus, nous allons aimer. Ah oui, parce que Jésus veut que tu sois à lui, bien-aimé. Vous savez, Jésus a dit un verset, avant de construire une tour, il faut calculer la dépense. Beaucoup de chrétiens n'ont pas calculé la dépense en s'engageant avec Jésus. Les prédications sont là pour leur rappeler ça. Calculer la dépense. Vous êtes toujours d'accord pour suivre Jésus? Voilà la question que Jésus nous posera toujours. Es-tu toujours d'accord? Regarde. Quand tu étais jeune, tu te mettais la ceinture, tu allais où tu veux. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et te mènera où tu ne voudras pas. Jésus précise cela. Comme je lis l'histoire formidable de Gushan Esther, cette fille qui avait fait 19 ans handicapée et que Jésus avait guéri. On dit, mais on va te tuer. Il ne faut plus parler de Jésus. Il dit, mais c'est Jésus qui m'a guéri, me demande de parler de lui. Mais je vais parler de lui. Hein. Donc, tuez-moi, il n'y a pas de problème. Elle qui pouvait avoir 100 domestiques, elle a commencé à vivre une vie de misère sans savoir ce qu'elle allait manger le lendemain. Alors qu'elle était héritière d'une richesse qui pouvait la faire vivre toutes les années, donc 50 ans avec 100 domestiques. Elle laisse tout ça pour suivre Jésus. Le reste n'en avait pas de goût. Mais c'est normal qu'un jour elle manquait un taxi, c'était la nuit, une femme. Elle voit une motocyclette et un homme s'arrêter avec un chapeau. Elle ne pouvait pas voir le visage de l'homme. Elle monte et l'homme la dépose à destination. Et quand l'homme démarre, c'était écrit sur le biceps de l'homme, c'était écrit « Patrous Pierre, bien-aimé ». Dieu a été jusqu'à l'envoyer Pierre pour l'amener sur une motocyclette. Parce qu'il faisait nuit, il n'y avait personne. Parce qu'elle avait tout laissé. Elle avait laissé son héritage pour suivre Jésus. Bien-aimé, vendez tout ce que vous possédez. Ce n'est pas pour me donner. C'est pour donner aux pauvres. Jésus n'a pas dit, ce n'était pas. Il ne voulait pas s'en enrichir. Il a dit, vendez tout ce que vous possédez. Et que chacun entende la voix du Seigneur et répondent selon son cœur. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous venons prier.